Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Transition, les dernières actualités RSE passées en revue pour vous. Je suis Sylvain Boucheron, CEO de BL Evolution et je vais présenter ce nouveau numéro avec ma collègue Anne-Laure Linné. Comme toujours, nous traitons les dernières actualités en faisant cette fois sur trois thématiques: climat, RSE et biodiversité. Alors commençons sans plus tarder avec l'actualité climat. Anne-Laure, je t'en prie.
Bonjour à tous et merci Sylvain. Les entreprises s'engagent de plus en plus dans la lutte contre le réchauffement climatique. Decathlon en est un exemple récent, car l'entreprise est désormais partenaire du projet Net Zero Initiative. Depuis mars 2021, Decathlon rejoint ainsi une douzaine d'entreprises, appuyées par un conseil scientifique international, pour collaborer à la création de ce référentiel qui s'appuie avant tout sur la réduction pour son entreprise et sa chaîne de valeur, avant d'engager des actions de compensation. Une première version du projet avait été publiée en 2020, et une nouvelle publication est prévue ce mois-ci pour présenter les avancées du projet.
De son côté, Total a le projet de développer son portefeuille d'activités dans les énergies renouvelables et l'électricité, destiné à représenter 40% du mix de ses ventes en 2050. L'entreprise veut ainsi s'affirmer comme un fournisseur stratégique d'électricité renouvelable et décarboner son activité. Pour agir à la hauteur de ses ambitions, Total a ainsi signé un contrat avec Orange afin de lui fournir 100 gigawattheures par an d'électricité renouvelable pendant 20 ans. Ce contrat permettra le développement d'ici 2024 d'une dizaine de nouvelles centrales solaires réparties sur l'ensemble du territoire d'une puissance cumulée de 80 MW. Signer ce contrat permettra aussi à Orange d'agir en cohérence avec ses ambitions de réduire de 30% ses émissions de CO2 directes par rapport à 2015 et d'intégrer 50% d'énergie renouvelable dans son mix électrique à l'horizon 2025. Et comme le déclare Fabienne Dulac, la directrice générale adjointe d'Orange et CEO d'Orange France, ce contrat illustre à la fois la volonté d'Orange et de Total de contribuer à la transition énergétique du pays, tout en favorisant le développement économique local avec le soutien des collectivités territoriales.
Restons encore sur la thématique du climat. Cette fois-ci, non pas avec la signature d'un contrat, mais plutôt avec la rupture du lien entre AXA et RWE. En effet, AXA refuse désormais d'assurer RWE, qui est le deuxième producteur d'électricité en Allemagne, mais également le plus grand émetteur de CO2 européen. Et AXA s'est également engagé à être totalement sorti du charbon pour ses activités d'assurance et d'investissement d'ici 2030 en Europe et dans les pays de l'OCDE, 2040 pour le reste du monde. L'entreprise estime ainsi désormais qu'assurer RWE est contraire à ses engagements. Espérons que cette action forte donnera le la et permettra à RWE et à d'autres producteurs d'électricité en Europe et dans le monde d'engager une transition environnementale. Tant d'initiatives en faveur du climat. Espérons que ces initiatives permettront d'inspirer toujours plus d'entreprises à s'engager dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone à la hauteur des enjeux.
Côté RSE, nous vous en avions parlé lors de notre dernier épisode. Ce mois de mars 2021 marque l'adoption à très large majorité du texte relatif au devoir de vigilance des entreprises sur leur chaîne d'approvisionnement par le Parlement européen. C'est désormais à la Commission européenne de publier son projet de législation avant l'été. Ce texte se veut contraignant et s'appliquerait à toutes les sociétés opérant sur le sol européen, y compris les entreprises étrangères ou les PME cotées en bourse et à haut risque. Le texte prévoit qu'elles puissent être condamnées en justice pour manquement à leur devoir de vigilance, avec notamment de lourdes amendes, l'exclusion des marchés et aides publiques et l'interdiction d'importer certains biens. En théorie, ce texte devrait permettre de faire converger les initiatives relatives aux devoirs de vigilance qui commencent à voir le jour dans quelques pays européens, notamment l'Allemagne qui vient de proposer un texte s'appliquant aux entreprises de plus de 1000 salariés et avec de fortes sanctions, notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 2% du chiffre d'affaires.
Cette revue de l'actualité RSE ne peut pas passer à côté de l'éviction d'Emmanuel Faber de Danone par les actionnaires du groupe. Emmanuel Faber était une figure incarnant d'importantes ambitions sociétales, sociales et environnementales pour le groupe. Danone avait également obtenu le statut de société à mission en juin dernier. Et même si ce nouveau statut était plébiscité par 99% des actionnaires, il semblerait que les résultats qui en ont suivi, notamment sur les marchés financiers, n'ont pas satisfait les fonds activistes et les membres du conseil d'administration qui ont finalement décidé d'évincer leur PDG faute de rentabilité suffisante, malgré un résultat net courant de plus de 2 milliards d'euros en 2020. Danone va probablement devenir un cas d'école international tant il interroge sur le modèle de société à mission et sa compatibilité avec un certain modèle actionnarial qui s'inscrit dans une financiarisation forte de l'économie.
Maintenant, quelques nouvelles du côté de la biodiversité. Il semblerait qu'une fois de plus, malheureusement, l'objectif de passer à 15% des surfaces agricoles en agriculture biologique en 2022 ne sera pas atteint, selon le vice-président de la FNSEA. Pour rappel, cet objectif était également celui du Grenelle de l'environnement de 2008, qui visait 15% de surfaces en bio dès 2013. Alors même si les terres cultivées en agriculture biologique sont en progression constante, la grande majorité des agriculteurs conventionnels ont du mal à sauter le pas. En 2019, on comptait ainsi 8,5% de terres cultivées en agriculture biologique contre 6,5% en 2017. Ces freins financiers, psychologiques, commerciaux et techniques qui obligent à repenser les métiers et ses habitudes sont autant de raisons qui expliquent ce retard. Mais dans le même temps, la coopérative Biocoop continue son expansion en ouvrant 60 nouveaux magasins et en enregistrant une croissance de 16% de ses ventes en 2020. Cela démontre un fort engouement, toujours croissant, pour l'agriculture biologique et sa démocratisation dans la population française.
Enfin, la biodiversité va de nouveau être affaiblie par la réintroduction temporaire d'un insecticide controversé. En effet, suite à une demande de la filière betteravière, alarmée par le développement massif de la jaunisse dans ses cultures, le Conseil d'État a validé la réautorisation temporaire des insecticides néonicotinoïdes, connus pour être particulièrement nocifs pour les abeilles. Alors qu'ils n'étaient plus autorisés en France depuis le 1er septembre 2018 suite à la loi biodiversité de 2016, cette dérogation autorise de nouveau les planteurs de betteraves à utiliser des semences enrobées de néonicotinoïdes. N'oublions pas que cette décision reste provisoire et cette pratique devrait normalement être de nouveau interdite après la campagne sucrière de 2023.
Et je signalerai qu'en parallèle, le Conseil constitutionnel vient de retoquer les chartes de protection des riverains contre les pesticides au motif que les modes de concertation publique n'étaient pas suffisamment ouverts, ce que demandaient les associations environnementales. Merci pour votre écoute et nous espérons que ces quelques brèves vous auront inspiré. À très bientôt pour le prochain numéro de Radio Transition.